Le grand départ. Lorsque je fus de retour au palais royal, je sentis un profond dégoût s'emparer de moi à la vue des richesses qui m'entouraient, au spectacle des divertissements qui m'étaient proposés et des plaisirs dans lesquels s'écoulaient toutes mes journées. Pour la première fois, je pris pleinement conscience de l'oisiveté, de la futilité et de la stérilité de mon existence. En dépit des mesures prises par mon père pour me dissimuler le vrai visage du monde, mes yeux s'étaient enfin ouverts à la réalité de la condition humaine. Ma décision était prise. Une nuit, ô Ananda, j'entrai dans le gynécée et contemplai tristement mon épouse endormie, qui serrait dans ses bras notre fils, le petit Raoula, qui venait tout juste de naître. Longtemps, j'observais ces deux visages tendrement aimés, celui de la mère et celui de l'enfant, et je me répétais à moi-même pour me donner du courage. « Il faut que j'arrache toutes les racines qui m'attachent encore au monde. Pourtant, comment pourrais-je quitter ces deux êtres qui m'aiment tant et que j'aime plus encore ?» C'est alors que je levai la tête et que j'aperçus dans la chambre voisine les suivantes et les musiciennes qui, un peu plus tôt dans la soirée, nous avaient divertis en jouant de leurs instruments. Étendues sur le sol, elles étaient à présent plongées dans un profond sommeil. Leurs flûtes et leurs harpes gisaient à terre dans le plus grand désordre. Leurs vêtements étaient froissés, leurs attitudes étaient relâchées et disgracieuses. La salive suintait de leurs bouches ouvertes et des ronflements sonores montaient de leur gorge, pareils au grognement des bêtes. Je contemplais ces corps abandonnés et inertes, semblables à des statues de pierre, et je sentis le dégoût monter en moi. Je ne pouvais continuer plus longtemps à mener cette vie vaine et trompeuse. Il me fallait comprendre à présent pourquoi derrière toutes les apparences se dissimulent la souffrance et la mort et trouver le remède à la misère de la condition humaine. Je regardais cet affligeant spectacle des musiciennes vautrées sur le sol et je compris que le moment était désormais venu, pour moi, de quitter à jamais le palais royal et d'abandonner la vie princière. Je sortis du gynécée et appelai mon fidèle Chandaka. « Réveille-toi, Chandaka, et harnache mon cheval. » La stupéfaction se peignit sur le visage du cocher. « Mais il fait nuit, Seigneur, et la nuit n'est jamais propice au voyage. Pourquoi ce départ si soudain? Je ne vois pas d'ennemis donnant l'assaut au palais. » « Les ennemis, Chandaka, ce sont la vieillesse, la maladie et la mort, et je n'en connais pas qui soit plus redoutable pour l'homme. » Alors hâte-toi de sceller mon cheval, de peur qu'on cherche à nous retenir. » Chandaka se tut et harnacha Kandaka, la noble monture. Mais au moment où j'allais l'enfourcher, le fidèle animal laissa échapper un long hennissement de tristesse semblable à un sanglot. Heureusement, et comme par miracle, son cri sembla se disperser et se perdre dans le silence de la nuit, sans que nul dans le palais endormi l'entende. Et lorsque, montant Kantaka, je franchis la porte du palais, puis l'enceinte de la ville, je constatai avec soulagement que le martèlement des sabots du cheval et le bruit de sa course dans les rues plongées dans le sommeil étaient comme étouffés et assourdis. Et quand enfin je parvins devant les lourdes portes de la ville, il me sembla les voir tourner miraculeusement sur leurs gonds, comme poussées par une main invisible, et s'ouvrir d'elles-mêmes pour me livrer passage. Je chevauchai durant toute la nuit, et au matin franchis une rivière et parvins dans un bois. Là, je me dépouillai de mes riches vêtements princiers, taillés dans la soie et le brocart, arrachai mes bijoux d'or et les lourdes boucles qui ornaient mes oreilles. Puis me tournai vers Chandaka. Et maintenant, Chandaka, emmène mon cheval, emporte mes bijoux et retourne au palais. Dis à mon père, le bon roi Suddhodana, et à mon épouse, la douce Yashodhara, que je les quitte à présent pour mener la vie d'un religieux errant, en quête de la vérité et du salut. Dis-leur que je ne reviendrai que lorsque j'aurai trouvé le remède à la triste réalité de la condition humaine et aux souffrances qu'endurent les hommes. Et dis-leur aussi que, dussent mes os se dessécher et pourrir, je ne reviendrai pas à Kapilavastu tant que je n'aurai pas tari la source de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Mais dis-leur surtout de ne pas s'attrister de mon départ, mais bien au contraire de se réjouir. Chandaka leva vers moi des yeux emplis de larmes. Comment pourrait-il se réjouir, Seigneur, eux qui ont eu le tort de prêter foi aux prédictions des astrologues? Car les devins n'avaient-ils pas prédit à votre naissance qu'un jour vous deviendriez un grand souverain, puissant et pacifique, un Chakravartine? Est-ce bien là tout ce qu'ils avaient prédit, Chandaka? Chandaka baissa les yeux. Non, Seigneur, ils avaient également dit que si vous n'éprouviez nul attrait pour les joies de ce monde, vous abandonneriez votre foyer afin de mener la vie d'un religieux errant. Tu vois bien, Chandaka, alors à quoi bon s'affliger? La prédiction des devins ne s'est-elle pas réalisée? Je laissai le fidèle Chandaka s'en retourner au palais, chargé des bijoux royaux et de mon dernier message. Je le suivis longtemps du regard. Tandis qu'il se frayait un passage à travers les arbres, suivi du noble Kantaka. Puis je m'enfonçai à mon tour dans la forêt dense et sombre. À un chasseur que je rencontrai en chemin, je fis don de mes habits princiers en échange des hardes grossières dont il était vêtu. Je revêtis ses pauvres guenilles, puis j'allai m'asseoir sous un jasmin à grandes fleurs. Il me restait un dernier geste à accomplir avant de pouvoir m'engager définitivement sur la voie des religieux errants. Lentement, je dénouai mes longs cheveux, sortis mon glaive de son fourreau et d'un coup sec tranchai ma chevelure comme on tranche tout lien avec le monde. À présent, le prince Siddhartha n'était plus. J'étais devenu un religieux errant, Gautama. Alors Ananda, cheminant par petites étapes et recevant l'hospitalité des uns et des autres, je parcourus à pied le Magadha, allant de villes en villages. Et durant de longues années, je suivis l'enseignement de plusieurs maîtres, tous versés dans la voie de la sagesse et de la connaissance. Mais aucun de ces sages, en dépit de tout leur savoir et de toute leur sagesse, ne put fournir de réponse à la question qui me hantait. Pourquoi la souffrance s'attache-t-elle à l'homme comme son ombre et comment l'homme peut-il s'en délivrer? Un jour, mes pas me conduisirent jusqu'au petit village d'Uruvilva. L'endroit me plut aussitôt et je résolus de m'y établir car il y coulait une rivière à l'eau fraîche et limpide et sur ses bords se dressaient des bosquets touffus et couverts de fleurs. En ce lieu charmant vivait en outre un sage renommé qui enseignait à ses disciples la pratique des austérités et des macérations qui permettent à l'homme de dominer son corps et ses sens par la puissance de l'esprit. Durant 5 longues années, je suivis l'enseignement de ce maître et me livrai à l'ascèse, m'efforçant de contrôler mes pensées et de maîtriser mon souffle, et refusant progressivement de m'alimenter afin de mieux dompter mon corps. Ma nourriture, Ananda, se limitait à quelques cuillerées de soupe de pois ou de lentilles qu'eusse pu tenir dans le creux de la main quand elle n'était pas constituée de racines ou d'une poignée de graines. Aussi étais-je devenu d'une maigreur extrême. Mes bras et mes jambes étaient pareils à des joncs secs. Mes os saillaient sous ma peau desséchée par les privations. Mon visage était hâve et décharné, et dans mes orbites creuses, l'éclat de mes yeux s'était éteint, comme le reflet des étoiles dans un puits sans fond. Ma pâleur et ma maigreur étaient telles qu'elles me donnaient l'apparence d'un mort, au point que les enfants du village, intrigués par mon immobilité, s'amusaient parfois à me recouvrir de poussière, mais je ne me laissais pas troubler par leurs jeux innocents et poursuivais ma méditation. Ma faiblesse était si grande que je tenais à peine sur mes jambes, et un jour que je me rendais à la rivière, je tombai sur l'herbe sans parvenir à me relever. Comme j'essayais de rassembler mes dernières forces afin de me mettre debout, il me sembla apercevoir, dans un miroitement vaporeux de brume qui s'élevait de la rivière, le dieu Indra. Je plissai pour mieux voir mes yeux fatigués que les longues privations avaient comme brûlés, et il me sembla distinguer, entre les mains du dieu, un instrument de musique. La vision se fit plus précise, et je compris qu'il s'agissait d'un luth. Alors le dieu Indra se mit à jouer de son instrument, et tandis qu'il jouait, il me montrait que seule une corde correctement tendue rend un son agréable, alors qu'une corde détendue ne produit aucun son, et qu'une corde trop tendue finit par se rompre. Je compris alors l'inutilité de la saisie, qui laisse le corps dépérir et se briser comme la corde trop tendue d'un luth, et qui obscurcit l'esprit de l'homme et le prive des moyens d'accéder à la connaissance, et je décidai de rompre mon jeûne. D'une jeune villageoise, Sujata, j'acceptai le don d'un plat de riz au lait et au miel, et tandis que je mangeais, je sentis mes forces revenir. Je pris alors un bain dans la rivière, lavai mon vêtement et allai m'asseoir au pied d'un pipal. D'un brahmane qui fauchait de l'herbe non loin de là, j'acceptai une brassée que je disposai sous l'arbre et dont je me fis un siège. Puis je m'assis sous les frondaisons du pipal, le buste bien droit, les jambes croisées, les mains réunies dans le giron et posées l'une sur l'autre, le visage tourné vers l'est. Et, l'esprit concentré et lucide, j'entrai en méditation, résolu à percer le mystère de la condition humaine.